Bonjour. Elle est en route pour aller tutoyer le soleil et sa couronne aux températures dantesques. La sonde Parker a décollé ce matin de Cap Canaveral. Au-delà de la prouesse technologique, il y a une mission scientifique majeure. Nous verrons cela avec notre invité, Alan Sacha Brun, le spécialiste du soleil au CEA de Paris-Saclay. La charge de Nicolas Hulot au lendemain de la décision Monsanto, le ministre de la Transition écologique et solidaire pointe les groupes de pression qui, dit-il, vont jusqu'à tenir la plume des amendements. Décryptage de Laurence Perron dans ce journal. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali aujourd'hui, des Maliens peu mobilisés alors que les défis ne manquent pas, développement et sécurité entre autres. Le sport avec à Berlin une médaille d'argent pour Clémence Calvin ce matin dans l'épreuve du marathon, nous l'entendrons. Et le foot qui boucle ce soir la première journée du championnat de Ligue 1, nous irons prendre le pouls du PSG qui se prépare à affronter Caen. La météo, attention aux orages dans le sud-ouest, des nuages à l'ouest et beau temps partout ailleurs, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Cela fait 60 ans que les scientifiques rêvent de percer le mystère de la couronne solaire. Ce rêve est désormais à la portée de la sonde Parker, qui s'est arrachée de l'attraction terrestre ce matin à 9h33 à Cap Canaveral. Décollage réussi après le faux départ d'hier matin. Margot Steve.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
C'est avec 24 heures de retard sur le planning initial à cause d'un problème technique que la fusée qui emporte la sonde Parker a décollé ce matin pour une mission qui va durer 7 ans, 7 années pour tenter de percer le mystère de ce que l'on appelle la couronne, cette partie de l'atmosphère du Soleil jamais explorée jusqu'ici. Alors bien sûr, avec cette mission, la NASA vise l'exploit technologique, mais il y a surtout un enjeu scientifique, comprendre d'abord pourquoi cette couronne est 300 fois plus chaude que la surface du Soleil, comment elle peut perturber le fonctionnement du réseau électrique sur Terre, comprendre aussi le phénomène des vents solaires, ces ondes supersoniques qui balayent régulièrement la surface de notre planète et qui perturbent les communications satellites. La sonde Parker, qui fait la taille d'une voiture, va donc s'approcher du Soleil comme cela n'avait jamais été le cas avant et traverser 24 fois cette fameuse couronne solaire à une vitesse qu'on a du mal à imaginer, l'équivalent d'un trajet entre New York et Tokyo parcouru en moins d'une minute.
Au-delà de la prouesse technologique, on vient de l'entendre, il y a un intérêt scientifique majeur que nous allons essayer de dérouler avec notre invité de ce journal de 13h, Alan Sacha Brun, chef du groupe Soleil au département astrophysique du CEA de Paris-Saclay. Alan Sacha Brun, bonjour.
Et bonjour.
Quelle est la finalité de cette mission Parker? Peut-on dire qu'il s'agit de prévoir la météo de l'espace?
Pas complètement. Disons que oui, le Soleil avec cette couronne dont on vient de parler et son extension par un vent solaire fait que la Terre baigne en permanence dans un vent continu de particules qui vont à des vitesses supersoniques, comme ça a été dit par le reportage. Mais en pratique, c'est aussi pour comprendre les mécanismes de fonctionnement du Soleil d'un point de vue de physique fondamentale. Si on voulait vraiment faire la météo de l'espace, on mettrait d'autres instruments aussi pour pouvoir faire de la prévision de façon encore plus précise. Donc parfois, on peut faire la distinction entre les deux. Je veux dire, l'aspect opérationnel de la météo de l'espace et le côté de la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes du Soleil qui après vont se rejoindre.
Et plus précisément, on va s'intéresser aux mécanismes de la couronne solaire.
C'est ça. Le Soleil est un énorme électroaimant. Il est fait de gaz très chaud qu'on appelle un plasma. Et à la surface, il a des mouvements convectifs de turbulents, si vous voulez, et qui créent du champ magnétique. Et ce champ magnétique, en fait, modifie la surface du Soleil en créant des zones où les particules peuvent s'échapper rapidement. C'est le vent rapide. Et puis des endroits où il y a des boucles qui sont fermées. Et là, le plasma du Soleil est piégé. Et c'est en fait comprendre comment la forme de la couronne évolue au cours du cycle de 11 ans du magnétisme solaire et comment celle-ci modifie cette chevelure étendue qu'on voit très bien lors des éclipses totales du Soleil.
Le défi technologique de cette sonde de la taille d'une voiture, on le disait, est immense. D'abord, la protection contre ces températures astronomiques.
Ah oui, alors effectivement, il va y avoir un flux de chaleur et une température très élevée. Bon, la couronne elle-même est à des températures très élevées, à plusieurs millions de degrés, mais elle est très peu dense. Donc, il faut faire une distinction entre chaleur et température. C'est pas exactement la même chose. Donc, le flux de chaleur, ça va faire que, en pratique, le bouclier va atteindre plus de 1200 degrés. Et du coup, il a fallu prévoir une protection spéciale. Ça va être fait à base de carbone, principalement, pour pouvoir refroidir les instruments de l'autre côté. Et ça a eu une autre contrainte sur les types d'instruments qu'on a pu mettre sur la sonde. Celle-ci a principalement des instruments de mesure locale, qu'on dit in situ, et une caméra grand champ qui lui permet de voir les conditions de la couronne, mais vue de côté, parce que bien sûr, ça aurait été pas possible, vu le flux de lumière qu'il y avait, elles auraient été complètement éblouies, les caméras.
Voilà, donc cette sonde Parker doit se protéger du chaud, mais paradoxalement, elle devra aussi se protéger du froid.
Ben oui, parce que s'il y a rien qui permet de maintenir la température, ça a tendance à se refroidir et donc il y a forcément un effet jour-nuit très intense.
Alors peut-être un mot sur le voyage de cette sonde Parker, quand arrivera-t-elle à destination et quel est le planning de sa mission ?
Alors, ce qui était très intéressant, justement, c'est que le Soleil a une façon de d'être actif, donc magnétiquement, avec ses éruptions et ce vent, de façon complètement non régulière sur sa surface, hein, puisque les taches solaires peuvent apparaître dans une bande de latitude entre plus ou moins 30 degrés, mais n'importe où en longitude, autour du Soleil. Et donc, du coup, grâce à la sonde Parker Solar Probe, on va pouvoir rentrer très près du Soleil, le voir de très près, donc se plonger carrément dans cette couronne, dont les conditions à chaque orbite, il y en aura 24, seront différentes. Et nous, grâce à d'autres satellites qu'on a déjà lancés et d'autres qui vont venir comme celui Solar Orbiter de l'Agence Spatiale Européenne dans quelques années, on va pouvoir avoir une vue à plusieurs points de mesure tant local que à distance du Soleil. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment il est structuré, comment il évolue. Voilà. Donc 24 orbites, 7 ans de mission, avec plusieurs assistances gravitationnelles par Vénus pour se rapprocher de plus en plus du Soleil, à moins de 10 rayons du Soleil.
Voilà, donc des grandes découvertes à attendre sur la connaissance que l'on a du Soleil. Alan Sachabrin, merci. Je rappelle que vous êtes chef du groupe Soleil au département astrophysique du CEA de Paris-Saclay. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Inter ce midi.
Merci beaucoup à vous.
Le journal de 13h sur France Inter.
Au lendemain de la condamnation Monsanto par un tribunal de San Francisco, coup de gueule de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, sort du bois ce matin et s'en prend aux lobbies qui se battent contre lui, selon lui, contre l'interdiction ferme du glyphosate en France. C'était ce matin sur BFM, on l'écoute.
La démocratie se grandirait à réglementer l'intervention des lobbies. Ces gens-là ont pignon sur rue. Parfois, j'irais même, probablement tiennent-ils la plume des amendements. Donc, il y a un moment ou un autre, c'est la démocratie qui est en péril. N'attendons pas d'avoir une liste de décès pour réagir.
Voilà Nicolas Hulot qui pointe les lobbies à l'Assemblée. L'Assemblée qui, en mai dernier, justement, avait rejeté le fameux amendement qui proposait d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Laurence Perron, bonjour.
Bonjour.
Une charge étonnante de la part d'un ministre censé faire bloc avec l'équipe gouvernementale avec laquelle il a récemment rappelé sa solidarité.
Alors si on refait le match, hein, parmi les engagements d'Emmanuel Macron, il y avait notamment un meilleur encadrement des lobbies. La loi confiance dans la vie politique ne l'a pas actée. L'interdiction encore du glyphosate d'ici à 2021. Eh bien, il s'est trouvé en mai 63 députés pour plus de la moitié en marche pour refuser un amendement qui devait l'inscrire fermement dans la loi. Éric Coquerel, député France Insoumise, félicite Nicolas Hulot.
Je ne sais pas quelles conséquences il va tirer de cette déclaration très très offensive et en cela positive, mais moi je ne vois pas comment il fait pour rester dans ce gouvernement et au sein de cette majorité.
Yannick Jadot, chef de file d'Europe Écologie Les Verts pour les Européennes, s'étonne, lui, de l'écart entre les mots et les actes du ministre de l'Écologie.
On a un peu le sentiment qu'il part en guerre après la bataille. Les batailles, il faut les mener. Il faut les mener à l'Assemblée. Il n'y était pas, c'était Stéphane Travert, pour empêcher l'interdiction du glyphosate. Il faut les mener au niveau européen. La France ne l'a pas mené. Moi, j'ai arrêté de m'interroger sur les états d'âme de Nicolas Hulot. Lui-même constate que, sur le glyphosate, la justice américaine fait beaucoup mieux que ce gouvernement. Aujourd'hui, il va falloir continuer à se battre pour interdire cette saloperie qu'est le glyphosate.
Du côté de Matignon, on minimise. Nicolas Hulot ne s'en prenait pas aux députés de la majorité ni à son collègue de l'agriculture, mais aux sénateurs qui en juin ont détricoté dans le projet de loi alimentation une mesure qui visait à séparer la vente et le conseil en matière de pesticides, dont acte.
Laurence Perron, merci. Le gouvernement va lancer en 2019 un bonus-malus sur le plastique. Objectif, renchérir le prix des produits en plastique quand ceux-ci ne sont pas recyclés. Demain, quand il y aura le choix entre deux bouteilles, l'une fabriquée en plastique recyclé et l'autre non, la première sera moins chère, explique au JDD ce matin Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Ils voulaient planter un mât de 10 mètres au sommet du Mont Blanc pour y hisser leur drapeau national. Un groupe d'alpinistes lettons a été stoppé par les gendarmes du PGHM de Chamonix hier après-midi, requis par le maire de Saint-Gervais qui dénonce dans un tweet une entreprise d'inconscients. Jean-Marc Pélex dénonce depuis plusieurs années l'impréparation de ces cohortes de randonneurs qui se lancent à l'assaut du toit de l'Europe et de ses 4810 mètres d'altitude. Une France perturbée sur sa moitié ouest. Aujourd'hui est dimanche. Météo France a placé 10 départements du sud-ouest en alerte orange aux orages. Des phénomènes relativement violents sont possibles. Des orages qui devraient frapper entre 16h et 22h selon Météo France. Le Mali aborde le deuxième tour de l'élection présidentielle sans grand enthousiasme aujourd'hui, avec une affiche habituelle. Ibrahim Boubacar Keïta face à Soumaïla Cissé, leur troisième duel, dominé comme toujours par Ibeka, aujourd'hui président sortant, crédité de 47% des suffrages il y a deux semaines, contre 17% à son adversaire. Deuxième tour sans enthousiasme, alors que les enjeux et les attentes de la population sont immenses, comme nous l'explique Ramata Diaouéré, journaliste et membre du comité des experts de la Maison de la Presse du Mali.
La première chose que les Maliens veulent d'abord, tout le monde, c'est l'amélioration des conditions de vie. La vie coûte cher et tout le monde n'a pas les moyens de le faire, le Mali est un pays pauvre. Il y a de gros problèmes de productivité agricole ces dernières années, avec des saisons, des pluies qui ne sont pas à hauteur de souhait. La deuxième chose qui, à mon avis, est très importante aussi pour eux aujourd'hui, et ça c'est à partir de la région de Ségou, c'est vraiment les problèmes de sécurité. Malheureusement, on a une exacerbation plutôt qu'une accalmie dans ce domaine-là. Les gens commencent de plus en plus à se rendre compte que bon, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, que ça ne concerne pas que le Nord. Il y a ce problème du chômage des jeunes. Il y a aussi ce problème de lutte contre la corruption. On a une corruption qui est prégnante, qui est à tous les niveaux. Je veux dire, pendant longtemps, on ne parlait que des douaniers, des juges et des policiers. Maintenant, on parle de santé, on parle d'enseignement. C'est aussi important.
Ramata Diaouré, journaliste à Bamako. Washington retient son souffle ce matin à quelques heures d'une inquiétante commémoration. Des sympathisants néo-nazis ont demandé à se rassembler à deux pas de la Maison-Blanche, un an après les incidents de Charlottesville, la petite cité de Virginie ayant interdit ce rassemblement. Les extrémistes se sont repliés sur la capitale américaine. À l'époque, la voiture d'un sympathisant néo-nazi avait foncé dans la foule, faisant un mort et 19 blessés. Un été de cauchemar pour les pompiers américains. 6 nouveaux incendies de grande ampleur se sont déclarés ces dernières heures, portant à plus de 100 le nombre de foyers actifs dans le pays. Plus de 30 000 pompiers luttent contre les feux qui ont ravagé près de 650 000 hectares dans l'état de Washington, au Nouveau-Mexique et en passant par la Californie, qui reste l'état le plus touché. L'athlétisme à présent, avec une médaille d'argent qui n'était pas forcément attendue ce matin à Berlin. La Française Clémence Calvin a pris la deuxième place du marathon, 6 secondes après la Bélarusse Mazuronak. Clémence Calvin, jeune maman qui disputait ce matin son premier marathon à ce niveau européen. On l'écoute.
Ah oui, la boule au ventre, elle est partie. J'ai essayé d'arriver le moins stressé possible. Après, vers le 30e kilomètre, je suis passée de la 3e à la 8e place. C'est vrai que ça m'a vraiment paniqué sur le coup. C'est là où on commence à être un peu dans le dur et au final, j'ai perdu du terrain. Je voyais le podium partir et directement, je me suis mise à visualiser mon fils. Les bons moments qu'on passe ensemble, quand il me prend dans les bras, quand je le vois sourire, ça m'a vraiment permis de me détendre. J'ai pensé à lui pendant au moins 3 kilomètres et c'était très très important. Ça m'a permis d'être au contact jusqu'à la fin. Je comptais sur ma vitesse terminale pour l'emporter dans les dernières centaines de mètres. Mais je tombais sur plus forte que moi. Et du coup, ben, je peux être que satisfaite de cette deuxième place parce que je pouvais guère faire mieux aujourd'hui. Dommage, mais franchement, à Berlin, j'ai eu l'impression d'être chez moi parce que j'entendais des clémences de partout. Le public français est venu en grand nombre. Et même ceux qui ne m'encourageaient pas à moi, je le prenais pour moi quand même. Je suis très fière d'être française. On a beaucoup de chance en France pour tout ce qu'on a. Je suis fière d'être dans l'équipe de France et de ramener cette médaille.
Voilà Clémence Calvin, médaille d'argent dans le marathon. Berlin qui s'apprête à vivre l'ultime journée de ses championnats d'Europe d'athlétisme. Vincent Pellegrini, bonjour.
Bonjour Christophe.
Quel est le programme de cette ultime après-midi et soirée à Berlin ?
C'est un programme alléchant avec, bien évidemment, en point d'orgue, le concours de la perche avec un grand favori, Renaud Lavillenie, bien sûr, qui vise ici un quatrième titre européen. Deux autres Français en finale, Axel Chapelle et Alioune Séné. Mais attention, la concurrence est rude, notamment avec le jeune Suédois Armand Duplantis, qui sera a priori l'adversaire le plus coriace pour Renaud Lavillenie. Chance de médaille également pour Alexandra Tavernier dans le lancer du marteau, elle qui a déjà décroché une médaille de bronze à des championnats du monde. Et puis en fin de programme, en point de programme, toujours très spectaculaire, les relais 4 fois 100 mètres dames et messieurs, ce sont les Françaises qui ont le plus de chances de monter sur le podium ce soir.
Merci Vincent Pellegrini en direct de ces championnats d'Europe de Berlin. Football avec les trois derniers chocs de cette première journée de Ligue 1, Lyon-Amiens cet après-midi, Bordeaux-Strasbourg et surtout PSG-Caen à 21h au Parc des Princes. L'entraîneur Thomas Tuchel va devoir composer sans certains de ses cadres, dont Marco Verratti forfait. L'objectif de l'Allemand, prendre soin des mondialistes qui n'ont pas pu préparer la saison comme le reste du groupe. Bruno Salomon.
Depuis lundi dernier, le PSG affiche complet. Tous les mondialistes sont rentrés et les Mbappé, Neymar ou encore Cavani sont au travail en préparation d'avant-saison un peu accélérée. Et donc pour ce soir, pour le match face à Caen, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, va être très prudent avec ses joueurs arrivés en dernier.
C'est toujours une situation compliquée et je ne veux pas prendre des risques. Avec des joueurs.
Un peu comme face à Monaco à l'occasion du Trophée des Champions, remporté 4-0, un joueur comme Neymar devrait donc être sur le banc et jouer quelques minutes en fin de match. Une star, Neymar, que Thomas Tuchel couve hier d'ailleurs à l'occasion d'une conférence de presse. Il a été question du statut du joueur brésilien sur le terrain avec le PSG.
C'est total clair que Gnei est mon joueur clé, mais aussi il est un artiste, il est créatif et des joueurs créatifs c'est quelquefois plus simple que ne pas trop les pression sur lui.
Pour affronter Caen, le PSG pourra compter sur des garçons comme Di Maria, Silva, Rabiot, mais aussi sur ces jeunes qui, eux, ont fait la préparation complète et pour certains qui ont marqué des points, comme par exemple Christopher Nkunku, le milieu de terrain, ou encore le latéral droit. Surprise, Colin Dagba, 19 ans, qui devrait être titulaire ce soir face aux Normands.
Voilà Bruno Salomon. Hier, le début de cette première journée de Ligue 1 a vu une moisson de buts. Monaco a battu Nantes 3-1. Même score entre Lille et Rennes. Nîmes a battu Angers 4-3. Saint-Étienne-Guingamp 2-1. Même score entre Dijon et Montpellier. À Montpellier, vendredi soir, Marseille avait humilié Toulouse 4-0. Escapade sur les plages pour finir ce journal normal en ce dimanche de la mi-août. Sur les plages où la mode de cet été est aux bouées géantes, des formes variées et originales. Plus elles sont grosses, plus ça attire l'œil. Reportage France Bleu Provence de Sarah Cozzolino.
Clara et Yasmine viennent du 15e arrondissement de Marseille. Elles se sont cotisées toutes les deux pour acheter leur bouée en forme de pneu. Et sur la plage des Corbières, il y a vraiment l'embarras du choix.
Des bouées en forme de pneus,
des bouées en forme de licorne, en forme de rose.
Il y a des donuts, il y a plein de trucs.
Mais avant la mise à l'eau, c'est l'étape du gonflage.
J'ai fatigué.
C'est Samia, leur maman, qui les aide.
Chaque fois qu'on vient à la plage, ils m'abattent pour acheter les bouées. Hein. Ils veulent une grosse, ouais.
À deux pas d'elle, trois garçons se pavanent. Leur bouée attire les regards.
Elle est très grande. Elle est en forme de caca.
C'est une crotte d'iPhone.
Nous, là, on l'a pris pour se mettre dans l'eau, pour bronzer un peu, comme un matelas gonflable.
Alors, toutes ces structures gonflables sur la plage, ça prend un peu de place. Mais ça ne semble pas gêner les Marseillais.
La plage de Corbières, je la connais depuis toujours. Les petits sont là pour profiter. Et nous, on est très contentes aussi. Après notre époque, sûrement les bouées étaient plus petites. Maintenant, ils ont grossi, mais bon, c'est bien aussi.
Une mode qui fait le bonheur des fabricants de ces accessoires de plage. L'année dernière, ce marché représentait 220 millions d'euros.
Voilà, depuis la plage, coup d'œil vers le ciel de France. La météo, prudence à l'ouest et au sud-ouest, beau à l'est et au sud. Jean-Michel Golinski.
Dans des températures partout en hausse, de 30 degrés dans la moitié nord jusqu'à 36 en Midi-Pyrénées, de violents orages sont prévus en fin d'après-midi dans le quart sud-ouest, instabilité en provenance d'Espagne qui va franchir les Pyrénées en milieu d'après-midi, donnant des orages violents en fin d'après-midi sur les 10 départements du sud de la Garonne placés en vigilance orange. Dans la nuit, ces forts orages vont gagner vers le Massif central, la Bourgogne et la vallée du Rhône. Avant les orages, et comme sur la plupart des régions, le temps sera ensoleillé sauf sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie où l'ambiance est pluvieuse. Et à l'avant, prévoyez un ciel plus voilé du Poitou-Charentes vers le bassin parisien jusqu'à la frontière belge.